Nous avons, il y a quelques mois, terminé l'étude du prophète Ésaïe. Et un thème qui est revenu, sur lequel nous avons même fait un enseignement particulier, c'était le thème de l'enlèvement de l'Église et du retour de Christ. Il se trouve qu'en continuant dans l'étude de la parole, nous passons d'un livre de l'Ancien Testament, généralement un livre du Nouveau Testament, un ou plusieurs s'ils ne sont pas très longs. Et ce qui est remarquable, c'est que nous sommes appelés, par cette lecture systématique de la parole, à reparler du thème du retour de Jésus-Christ sur la terre, du thème de l'enlèvement d'Église. Et ça ne devrait pas être une surprise. Je sais que dans certaines églises, et on ne dit pas ça pour dire qu'on est mieux que ces églises, mais c'est vrai que si on n'a pas une étude systématique de la parole, on a tendance à favoriser des thèmes et à enseigner sans arrêt sur certains thèmes qui sont des thèmes chers au pasteur ou des thèmes chers à la dénomination à laquelle appartient son église. Mais lorsque on fait un panorama de toute la Bible, on s'aperçoit que dans l'ensemble de la Bible, il est question du retour, de la fin des temps, 1845 fois. Et pourtant, dans certaines églises, on préfère pas parler de ces choses parce que ça divise, parce que c'est trop sujet à controverse. L'Apocalypse, on peut lui faire dire ce qu'on veut, ne parlons pas de ces sujets. Et pourtant, un verset sur 30 dans la Bible parle de ces sujets. Dans l'Ancien Testament, ce sujet du retour de Jésus, de la fin des temps, ce qu'on appelle des fois avec un terme savant, l'eschatologie, eschatos, ça veut dire dernier, c'est l'étude des temps derniers, des derniers temps, de la fin des temps, de la fin du monde, comme disent les païens, les non-croyants. Dans 17 livres de l'Ancien Testament, 17 sur 39, c'est le sujet dominant, c'est le sujet principal. On en a parlé, je le rappelle souvent dans le livre d'Ésaïe, le grand prophète, ce sujet qui est toujours un arrière-plan de la prophétie. La prophétie, on a dit, c'était souvent une vision immédiate des choses, une vision un peu plus lointaine, et il y a toujours cet arrière-plan de la fin des temps. Dans le Nouveau Testament, qui comporte, je vous le rappelle, 27 livres, 260 chapitres abordent ce sujet. Il y a 318 références au retour de Jésus-Christ. Un chapitre sur 7 du Nouveau Testament parle du retour de Jésus, de l'avènement de Jésus, comme il est parfois dit, de l'enlèvement d'Église, de la fin des temps. Et donc, on a parlé de ces sujets, mais je n'ai aucune espèce de gêne à reparler des sujets dont nous avons parlé il y a peut-être 3 mois, ou pendant de nombreuses fois dans le cours de l'étude d'Ésaïe avant ça. Je vous rappelle juste pour référence que nous adoptons une vision de la fin des temps qui fait qu'à tout moment, Jésus-Christ pourrait revenir. Ça correspond à une vision de l'enlèvement de l'Église avant la période de la Grande Tribulation, cette 70e semaine ou cette période de 7 ans qui se terminera par la venue de Jésus, par la victoire de Jésus à la bataille d'Armageddon pour l'établissement d'un règne de 1000 ans avant l'apparition d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Certains pensent que l'Église va être enlevée au milieu de la grande tribulation. D'autres pensent qu'elle va être enlevée après la grande tribulation. Une des caractéristiques de cette grande tribulation, ça va être l'avènement de l'impie, de ce qu'on appelle l'antéchrist. Dans ces visions des choses, on s'attend, on guette l'apparition de l'antéchrist. On se demande, est-ce que c'est tel grand leader politique actuel, est-ce que c'est Obama, est-ce que c'est Sarkozy, est-ce que c'est... Et au lieu de cela, la vision où nous savons que Christ peut apparaître à tout moment, ça fait que nous attendons à Jésus-Christ. Est-ce que vous préférez vous attendre à l'antéchrist ou à Christ? La question, ce n'est pas notre choix personnel, mais c'est le désir de Dieu de ce que nous vivions comme si Jésus pouvait revenir à chaque instant. Je ne sais pas, j'ai pas eu d'informations très précises sur le décès du papa d'Aileen. Mais je peux vous garantir qu'il n'avait pas marqué sur son agenda « mort dimanche, samedi 28 août 2010 ». Mais je suis sûr, en revanche, qu'il s'attendait à partir à chaque instant. Et un des bénéfices énormes aussi, c'est que non seulement on s'attend à voir Jésus-Christ, mais que ça nous convie, ça nous invite, ça nous encourage à vivre d'une façon digne de Jésus. Je vous ai déjà parlé de ce jardinier à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans une grande propriété. Et un pasteur lui demandait qu'est-ce qu'il faisait en l'absence de ses maîtres, de ses patrons. Est-ce qu'il se relâchait un peu? Ça devait être tranquille, puisqu'en fait, la personne qui était très riche ne venait que rarement profiter de cette belle, immense villa. Et le jardinier disait « Non, l'avantage, c'est que je ne sais jamais quand le patron va revenir. Il peut revenir en m'envoyant un télégramme. Des fois, il se pointe à la porte et il m'appelle. Et l'intérêt, c'est que je dois garder les lieux, le jardin, en état parfait, en état impeccable à tout moment. » Et c'est une très belle illustration de ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous maintenions notre jardin intérieur, notre vie personnelle, notre vie au niveau de la moralité et même de notre vie avec nos semblables, avec nos frères, nos sœurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, telle qu'elle soit pleine de jolies fleurs, que l'herbe soit bien coupée, que les bassins soient remplis d'eau abondante. Et je vous invite à garder cette image du jardinier qui doit se tenir prêt à tout moment pour le retour de son maître. En ce qui concerne votre vie spirituelle, en ce qui concerne votre relation non seulement avec Dieu, mais avec vos semblables, avec vos frères, vos sœurs, vos voisins, votre famille, vos proches, votre époux, votre épouse. On est invité, pour ceux qui sont mariés, à ne laisser rien qui puisse être un obstacle à nos prières. Il nous est recommandé de ne pas dormir sur notre colère. Avant de vous endormir, est-ce que vous demandez à Dieu de vous montrer s'il y a des choses vous devez régler, et notamment dans le domaine de la colère? C'est d'abord pas bon pour notre santé d'avoir de la colère qui reste sur notre cœur alors que nous allons nous reposer. C'est difficile des fois de pouvoir bien dormir lorsqu'on est en colère. pardonner les autres. Se sentir, se savoir pardonner. Et cette année, c'est un peu ma prière. Il y a un très beau chant qui n'est pas encore traduit, qui dit « Le matin, quand je m'éveille, donnez-moi Jésus. » Vous pouvez garder votre monde, mais donnez-moi Jésus. À l'heure de ma mort, donnez-moi Jésus. Est-ce que c'est notre souhait que on nous donne Jésus, que Jésus se révèle à nous et que nous grandissions dans l'intimité avec lui? Franchement, tout le reste est secondaire. Devant cette année qui vient, ce qui compte, c'est que nous grandissions chacun et chacune et collectivement dans l'intimité avec Jésus. Le connaître, reconnaître sa voix. Ces brebis reconnaissent sa voix. S'il ne vous parle jamais, c'est peut-être que vous n'êtes pas une de ces brebis ou que vous ne cherchez pas à l'entendre. Vous laissez accaparer par les bruits du monde. Et Dieu sait s'il y en a, des bruits du monde. Nous vivons dans un monde où il est difficile de faire silence. Il y a les gros titres des journaux, il y a les affiches, il y a la télévision, il y a les nouvelles, il y a la radio, il y a Internet, il y a le téléphone. Tous ces moyens qui sont supposés nous simplifier la vie, en fait, sont utilisés par l'ennemi pour nous éloigner de la source de la vie, Jésus-Christ. Et nous devons nous inciter, nous devons nous exhorter les uns les autres aux bonnes œuvres. Nous devons nous inviter à cette vie toujours plus proche du Seigneur. On a remarqué que Paul remerciait souvent, encourageait souvent les personnes de cette église en leur disant « Vous faites déjà ces bonnes choses, mais je vous invite à poursuivre, à continuer encore. Je vous invite à prier pour cette année collectivement pour l'église. Il y a peut-être des choses que nous avons faites jusqu'à présent qui ne méritent pas d'être reconduites. Peut-être d'autres qui doivent être recentrés sur Jésus-Christ. Et nous cherchons la volonté du Seigneur pour certains ministères, qu'ils nous mettent sur le cœur ce qu'il veut faire pour l'Église. Dieu est à l'œuvre. Et ce qui compte, c'est de nous associer à son œuvre. Pas d'essayer de faire nos propres petits plans et de lui demander au dernier moment de les bénir. Seigneur, voilà ce que je veux faire. Et puis je te demanderai aussi, pourquoi, pendant que tu y es, de bénir et faire que mes plans prospèrent. C'est une démarche d'humilité de demander au Seigneur de nous montrer ses plans, parce que nous avons tendance à penser que nous les connaissons. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'il nous demande d'être éveillés, d'être réveillés pour nous préparer. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, dans 1 Thessaloniciens 5, le premier paragraphe ou le premier chapitre. Première partie de ce chapitre, les versets 1 à 11. La parole est inspirée. Les titres qui se trouvent dans nos Bibles sont souvent un reflet de ce qui est dans le texte. Et là, il est question du jour du Seigneur et de la vigilance. Lisons ensemble à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Paul a toujours beaucoup de douceur et de compassion lorsqu'il exhorte les gens. Il avait déjà dit à ces mêmes Thessaloniciens, et c'est à toute l'Église des siècles à venir qui allait suivre cette époque jusqu'à nous, et pour plus tard si le Seigneur devait retarder son retour. Il disait déjà, pour ce qui est de l'amour fraternel, au verset 9 du chapitre 4, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est ainsi que vous faites envers tout, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. » Et là, peut-être on peut recevoir un conseil ou une façon de faire qui est fructueuse. C'est de constater ce qui va bien dans la vie des autres avant de leur demander d'aller plus loin. J'ai un défaut, c'est que j'ai tendance à voir ce qui ne va pas au lieu de voir ce qui va. Et pour ceux qui sont proches de moi, ceux qui travaillent avec moi, ma famille, c'est toujours décourageant de dire « Tiens, il y a ça qui n'est pas fait ou ça qui aurait pu être mieux fait » au lieu d'apprécier ce qui a déjà été fait. Et pour ceux qui sont victimes de ce péché, je demande d'abord pardon à Dieu, mais je vous demande pardon. Parce que c'est décourageant au possible de venir, par exemple, travailler le week-end ou le samedi matin, le vendredi soir, nettoyer l'église. Et avant de vous dire merci, je vais dire, tiens, est-ce que tu pourrais passer un coup de serpillière là? Il y a encore des marques. Paul avait cette capacité à encourager en disant, vous faites déjà très bien. Merci pour tout ce que vous faites. Mais avec l'aide du Seigneur, en nous exhortant les uns les autres, nous pouvons mieux faire. Il leur dit donc, vous savez déjà des tas de choses. Et c'est remarquable parce qu'il avait passé très peu de temps avec eux, il avait été avec eux pendant seulement 3 sabbats. Donc on peut supposer qu'il avait été au maximum 4 à 5 semaines avec eux. Et il leur avait déjà appris des tas de choses. Et il leur avait appris notamment que le Seigneur allait revenir comme un voleur dans la nuit. Cette expression, le jour du Seigneur, elle est reprise aujourd'hui. On pense que c'est le dimanche. Je crois qu'il y a même une émission à la télévision des catholiques qui veulent dire par là le dimanche. Mais encore une fois, le jour du Seigneur, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament et qui parlait du jugement, de la période de jugement de Dieu qui allait revenir punir les méchants. Les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne font pas confiance à Dieu, ceux qui ne mettent pas leur foi en lui, par rapport aux justes, par rapport aux croyants. On peut regarder rapidement quelques passages pour vous montrer que c'est pas une invention de Paul. On a dit qu'il y avait 17 livres de l'Ancien Testament dont c'était cette colère de Dieu à la fin des temps, son retour en la personne de Jésus, que c'était un sujet. On va voir quelques prophètes en revenant notamment à Ésaïe. Page 671 dans la Bible à la colombe, Ésaïe 2, versets 12 à 21. Les chrétiens de l'époque de Paul, les chrétiens de ce qu'on appelle l'Église des premiers temps ou l'Église primitive, en anglais, the early church, c'était pas l'Église qui venait à la réunion de culte de bonheur, c'était l'Église de l'époque des apôtres et qui a suivi. Verset 12. On peut même lire à partir du verset 9. L'être humain est courbé, l'homme est abaissé, ne leur pardonne pas. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, loin de la terreur de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté. Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés et l'orgueil des hommes sera courbé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car, verset 12, l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et qui sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tous les objets de désir. L'arrogance de l'être humain sera courbée et abaissée l'orgueil des hommes. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On va lire d'autres passages. On voit ce contraste à la fin des temps où Dieu vient abaisser l'orgueil de l'homme. Il s'élève contre tous les objets de désir. Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? Si ce n'est pas Dieu, une plus grande relation avec Dieu, c'est un objet de désir qui sera abaissé. C'est quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ce sont des idoles. Et Dieu va se lever pour épouvanter la terre. Il est dit un peu plus loin de ce passage d'Ésaïe. On va voir aussi le prophète Amos, page 908. C'est un de ce qu'on appelle les petits prophètes, en raison du peu de volume des écrits qui ont été inspirés par ces prophètes. Amos, verset 18 du chapitre 5, page 908, dans la Bible à la colombe. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et que rencontre l'ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? n'est-il pas obscur et sans éclat ? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme de l'eau et ta justice comme un torrent intarissable. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ? Emportez donc Sikout, votre roi, et Cliyoun, vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Et je vous déporterai au-delà de Damas, dit celui dont le nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Des paroles prophétiques écrites il y a très longtemps, près de 3000 ans, et qui doivent nous interpeller. Est-ce que Dieu méprise nos fêtes ? Est-ce que Dieu méprise nos cérémonies ? Est-ce que Dieu méprise nos rassemblements ? Parce que peut-être nous donnons une image extérieure, mais nos cœurs à l'intérieur ne sont pas à lui complètement. Est-ce qu'une fois encore, il y a de l'idolâtrie dans mon cœur, dans vos cœurs ? Nous sommes bénis par la possibilité de chanter à Dieu. Mais est-ce que Dieu dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Éloigne de moi le bruit de ta louange. Je n'écoute pas le son de vos guitares. » Le jour de l'Éternel, il en est question encore, par exemple, on peut lire un passage dans le prophète Joël, chapitre 2. Sonnez du cor en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais dans les générations à venir. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était devant lui comme un jardin d'Éden et derrière lui c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. On dirait un bruit de char qui bondit sur le sommet des montagnes. On dirait le bruit de la flamme du feu qui dévore le chaume. On dirait un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent, ils courent comme des héros. Ils escaladent une muraille comme des gens de guerre, chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route, nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa route, sa voie. Ils se ruent au travers des projectiles sans rompre les rangs, ils fondent sur la ville, courent sur la muraille, escaladent les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable, qui pourra le supporter ? Dernière citation, Sophonie, page 927, un des petits prophètes, mal connu, trop souvent. Chapitre 1, versets 14 à 18. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront le cor et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. Je mettrai les humains dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux de l'Éternel par le feu de sa jalousie, Toute la terre sera consumée quand il provoquera l'extermination, combien épouvantable, de tous les habitants de la mer. Ce jour de l'Éternel, ce jour qui va venir comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Nous avons des nouvelles mamans, des jeunes femmes qui ont donné naissance à des enfants, et il y a cette notion d'attente et de surprise. Et les jeunes, les mamans qui viennent d'avoir des enfants me font des signes. Oui, on sait que ça va venir, mais en même temps, quand ça arrive, c'est toujours un peu par surprise. Même si on cherche à s'y préparer, à s'y attendre, quand les contractions se font violentes, on se dit « Oh non, pas maintenant, c'est pas au milieu de la nuit, mon époux va pas pouvoir m'aider, il doit travailler demain. » Qu'est-ce que je vais faire des autres enfants? Cette surprise, elle est aussi avec le jour du Seigneur. On voit tout de suite que, en fait, ce jour qui n'est pas une journée de 24 heures, mais une période de jugement de la fin des temps, la meilleure façon de comprendre ces passages, c'est de savoir qu'elle se fait en deux temps. Le Seigneur vient d'abord pour son Église. Et ça, il n'y a aucun signe avant-coureur. C'est ce que Paul expliquait dans le chapitre précédent, en disant « Le Seigneur, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On ne peut pas trop se consoler avec les passages que je viens de lire, n'est-ce pas ? La colère du Seigneur va être terrible, pas une personne ne va pouvoir en réchapper. Il vient, c'est un jour de ténèbres, de courroux, de fureur, de folie, de mort. Encouragez-vous avec ces paroles. Non, on peut s'encourager parce qu'on sait que si nous lui appartenons, nous allons être enlevés et que nous allons être pour toujours à partir avec le Seigneur. Il va revenir, un signal donné que nous reconnaîtrons, nous les chrétiens, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, leur corps sera ressuscité, leur âme est déjà avec le Seigneur. Ça, c'est une certitude. On peut savoir que le papa d'Aileen, parce qu'il était sauvé, qu'il était né de nouveau, il est en présence du Seigneur. Mais son corps est toujours dans la terre et au moment du retour de Christ, les morts ressusciteront, ils recevront un nouveau corps. Nous, les vivants, nous serons enlevés aussi. Et ça, pour ça, il n'y a aucun événement que nous devions attendre. On ne doit pas scruter, savoir si tel ou tel personnage charismatique, plein de sagesse, qui amène la paix dans le monde est l'antéchrist ou pas. On doit vivre comme si à tout moment, on pouvait être enlevé. L'avantage, encore une fois, de savoir cela, de vivre en connaissance de cette vérité, c'est que ça nous conduit à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. J'entendais un sermon où le prédicateur demandait combien de temps vous pouvez ne pas pécher. Et je laisse cette question résonner en vous. Combien de temps est-ce que je peux vivre sans pécher? Dès l'enfance, j'étais élevé catholique. On devait aller se confesser avant le samedi, dans l'après-midi, samedi soir, avant de pouvoir recevoir l'hostie. participer à la Sainte Cène à la façon catholique le lendemain matin, le dimanche. Et le grand défi pour un enfant qui voulait plaire à Dieu, c'était « Ok, maintenant le prêtre a pardonné mes péchés, je suis sans péché. Est-ce que je vais pouvoir arriver jusqu'à demain matin sans commettre d'autres péchés ? Auquel cas, je ne pouvais pas participer à la Sainte Cène. » Et je dois dire qu'en fait, je participais souvent à la Sainte Cène en ayant conscience que je n'étais pas sans péché. Je sortais de l'église, il y avait un confessionnal, je sortais, je me retrouvais dans la rue, et j'essayais d'avoir des sentiments d'amour pour tous les gens que je voyais. Puis il y avait une petite dame qui passait devant moi, qui me donnait un coup de poing ou un coup de coude, et « Oh Seigneur, aide-moi !» Je rentrais à la maison, j'essayais d'être un petit ange avec ma famille. Je mettais la table, je faisais la vaisselle, j'essayais de ne pas avoir une seule mauvaise pensée. Ma sœur avait même développé une technique. Normalement, quand on prend la Sainte Cène, qu'on va recevoir ce qui va devenir le corps de Christ dans la croyance catholique, c'est la doctrine de la transsubstantiation. Cette hostie devient le corps même de Jésus-Christ. Et donc l'idée, c'est qu'on ne va pas recevoir dans nos corps le corps de Christ en le laissant se mélanger avec les restes d'un repas, avec des chips à moitié digérés. Je ne vais pas poursuivre l'analogie, rassurez-vous. Mais l'idée, c'était de jeûner au moins 3 heures avant de pouvoir recevoir le corpus Christi dont nous n'étions pas dignes. Et elle ne voulait pas rater le petit déjeuner du matin. Donc elle avait trouvé cette technique. Le soir après le repas, une demi-heure après, elle prenait son petit déjeuner pour ne pas commettre de péché. Mais, trêve de plaisanterie et de référence catholique, combien de temps est-ce que vous êtes capable de vivre sans péché conscient ? On sait qu'il y a des péchés qu'on peut commettre sans en être conscient. Peut-être que les plus forts d'entre nous se disent « Oh, je peux rester peut-être une demi-heure, une heure. » Mais ce pasteur disait en fait « Rien ne vous empêche de ne pas vivre une semaine sans péché. Un mois sans péché. » Alors, il n'est pas question de prendre ça comme des motifs de fierté, de s'en vanter, parce qu'à ce moment-là, on commet un péché d'orgueil. Mais prenez cette exhortation à dire « Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas vivre un peu plus longtemps sans tomber dans un péché commun ?» connu, un péché habituel. Lorsque nous venons à Dieu, nous sommes justifiés. Dieu nous voit comme si nous n'avons jamais péché, parce que Jésus a porté mon péché à la croix et il m'a libéré de la punition du péché. Ça, c'est en un instant, en un moment. Puis un des autres aspects du salut, c'est la sanctification. Devenir de plus en plus des images de Christ, de pécher de moins en moins souvent, de prendre de moins en moins de temps pour demander pardon à Dieu et recevoir le pardon de nos péchés, qu'il est fidèle de nous accorder si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons avec lui que ce que nous avons fait est mauvais, ce que nous avons fait avec nos proches, avec nous-mêmes, avec ceux qui nous entourent, est mauvais, est un péché. Et dans cette période de sanctification, nous n'avons plus à subir la puissance du péché. Nous pouvons dire non au péché. Si nous péchons encore, c'est que quelque part, nous avons dit oui. Et le problème avec certains de ces péchés, c'est que nous avons mauvaise conscience. Nous regrettons lorsque nous avons commis le péché, mais nous avons toujours envie du plaisir, de la gratification qu'apporte ce péché. Et pour compenser la difficulté de la vie, des problèmes, des fois nous disons, j'ai droit à un petit McDo. Vous méritez un peu de plaisir, de gratification. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, c'est un mensonge de l'ennemi et nous pouvons faire appel à Dieu, nous pouvons l'invoquer pour nous demander de l'aide. Et donc cette semaine, je m'invite moi-même à essayer de vivre un peu plus longtemps sans tomber dans ces péchés habituels, dans ces convoitises, ces idolâtries, et chercher à, avec l'aide du Seigneur, à le glorifier. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Il fait un contraste entre le jour et la nuit. Et ça doit être vraiment, on utilise des fois, on dit aujourd'hui, il y a l'expression, il n'y a pas photo. On dit, c'est le jour et la nuit, entre ce que je vivais avant, ce que je vis maintenant, maintenant que j'ai pris ces vitamines, maintenant que j'ai commencé à faire de l'exercice. Notre vie de chrétien, ça doit être le jour et la vie dans notre propre existence. Vous devez pouvoir vous rappeler de votre vie où vous ne connaissiez pas Jésus. Peut-être pour certains, c'est très loin, où vous êtes né dans une famille chrétienne et vous avez toujours plus ou moins connu le Seigneur. Mais le fait de devenir son disciple, ça doit être une différence énorme. Si vous êtes chrétien et que votre vie n'a pas changé, vraiment, peut-être que le Saint-Esprit veut vous demander, est-ce que tu as vraiment compris ce que c'était qu'être chrétien ? Trop souvent, nous professons une théologie, nous ne la vivons pas. Nous sommes enclins à dire, faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Paul n'avait aucune honte, il pouvait affirmer sans vergogne, imitez-moi. Si vous voulez savoir ce que c'est que de vivre pour Christ, regardez-moi et imitez-moi. Je crois que la plupart d'entre nous, et c'est peut-être bon dans le sens de l'humilité, mais c'est peut-être mauvais sur la réflexion que ça apporte, l'éclairage que ça apporte sur notre vie de chrétien. On dit, je n'oserais pas dire, imitez-moi pour imiter Christ. Et pourtant, si nous vivons dans la lumière, Paul nous dit, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. L'expression être fils de la lumière, être fils de quelque chose dans la pensée hébraïque, c'était d'avoir les caractéristiques essentielles du papa. Avoir les caractéristiques essentielles de quelque chose. Avoir les caractéristiques essentielles d'une qualité ou d'un défaut. Être fils des ténèbres, c'était d'avoir les caractéristiques des ténèbres. Comme un enfant ressemble souvent à son papa. Et là, il dit, nous ne sommes pas des ténèbres, nous ne sommes pas de la nuit. Et il dit, on dort la nuit, on s'enivre la nuit pour les païens. Ne vivons pas comme eux, ne dormons pas comme les autres, dans le sens ne soyons pas loin dans nos pensées de Dieu, loin dans nos actes de Dieu, mais veillons et soyons sobres. La sobriété, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être passionné. Souvenez-vous, le jour de la Pentecôte, les païens disaient que les chrétiens étaient déjà ivres, ils étaient remplis de l'esprit, ils vivaient déjà passionnément. La sobriété, ça veut dire qu'on voit les choses avec justesse, on comprend les vraies priorités, on saisit la différence entre le temporel et le permanent, entre le temporel et l'éternel, et on vit en connaissance de cause. Ne vivons pas comme les gens qui n'ont pas la connaissance du retour de Christ, comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Il nous invite pour être du jour, pour vivre vraiment dans le jour et être sobre, à revêtir une cuirasse. Alors c'est intéressant parce que on a déjà parlé et on y revient souvent. Il y a les armes décrites par le même apôtre Paul et il nous décrit une cuirasse dans le Éphésiens 6 verset 14. Il nous rappelle de nous fortifier dans le Seigneur par sa force souveraine. C'est un rappel qu'on peut demander de l'aide au Seigneur dans les combats, dans la tentation. Revêtez-vous, 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et là, il est question d'une autre cuirasse. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour ainsi que le casque de l'espérance du salut. C'est intéressant de voir que c'est le même auteur qui parle assez librement de cette cuirasse, de ce même casque. Là, ce n'est pas le casque du salut qui protège nos pensées, le fait que nous savons que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Dieu, à Jésus. Là, c'est le casque de l'espérance du salut. Alors, l'espérance, dans le vocabulaire moderne, ou l'espoir, comme c'est autrement utilisé, c'est un espèce de vague souhait en espérant que ça puisse se réaliser. J'ai l'espoir de gagner un jour au loto, mais on sait que les chiffres sont contre nous, les statistiques ne sont pas en notre faveur, donc c'est très lointain, c'est très, très faible, mais on dit j'ai l'espoir de gagner un jour un loto. Par contre, ici, dans le vocabulaire du Nouveau Testament, l'espérance, c'est l'assurance certaine d'un bien à venir. Ce n'est pas quelque chose de vague. Donc cet espoir et ce salut, c'est la même chose. C'est comme un casque qui nous protège des coups que nous recevons sur le crâne de l'ennemi, du monde, de notre chair. Et là, au lieu d'être la cuirasse de la justice, c'est la cuirasse de la foi et de l'amour. La justice que nous recevons de Dieu, le fait que nous sommes déclarés justes et que dans la sanctification nous vivons de plus en plus de façon juste et bonne et conforme à la volonté de Dieu. Et en fait, Paul ici dit que pour qu'un chrétien puisse agir, il faut qu'il ait cette foi et cet amour. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans l'amour, nous ne pouvons pas aimer nos frères et ceux qui nous entourent. Et c'est cette justice, elle s'accompagne de cette foi et de cet amour. Mais c'est bien de réaliser que des fois on va faire une analyse très précise, des fois on va dessiner une armure, c'est pas mauvais. Mais un autre verset peut remettre un peu en question nos desseins. Encore une fois, l'apôtre Paul communique des choses qu'il a reçues du Saint-Esprit. Toutes ces choses vont ensemble. Et il n'y a pas de justice sans la foi, si on ne met pas notre foi en Christ, si on ne fait pas confiance à Dieu pour nous donner la victoire, pour nous permettre de dire aux autres l'espérance qui est la nôtre, nous ne pouvons pas y arriver. On ne peut pas recevoir la justice de Dieu sans en même temps recevoir l'amour qu'il déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Et donc, si nous n'avons pas ces choses dans notre vie, nous devons nous demander, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment reçu le Seigneur comme mon maître et mon sauveur? Et là, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très clair, cette colère dont nous avons parlé, cette colère qui est décrite dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, dans les versets 9 à 16, cette colère, elle n'est pas destinée aux chrétiens. Il est surprenant de voir qu'il est question de l'Église dans les premiers chapitres, mais dès qu'on passe à la colère de Dieu, l'Église n'est plus mentionnée. C'est parce qu'elle est avec Jésus dans les cieux et qu'elle va revenir, que nous les saints, nous l'Église, nous allons revenir à la fin de cette période de 7 ans, lorsque Jésus va remporter la victoire contre les forces du monde qui s'acharneront sur Dieu, sur les chrétiens qui auront été sauvés, qui seront encore là. Il va y avoir cette victoire et l'Église n'est plus là. Je corrige, les chrétiens ne seront pas persécutés pendant la période de la tribulation. Des personnes vont venir à Dieu pendant cette tribulation. Ce seront ce qu'on appelle les saints de la grande tribulation. Il y aura sans doute essentiellement des élus de Dieu, des juifs qui auront été convertis en voyant ce qui se passe et en voyant que l'Église a disparu, que cet oncle qui était un chrétien engagé n'est plus là, que le monde sera dans l'interrogation, qu'est-ce qui s'est passé avec ces accidents, qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes qui ne sont plus là, qu'on n'a pas retrouvées. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est intéressant de voir que Paul parle de nous et de « il ». Au verset 3, il disait « ils n'échapperont point », parlant des païens. Mais là, il se met au même point. Il s'inclut dans ceux qui ne sont pas destinés à la colère de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Là, il utilise les mots de veille et de sommeil, de dormir, dans le sens de vivre physiquement ou d'être mort. Ceux qui veillent, ce sont les chrétiens qui sont encore vivants et qui obéissent à ces injonctions de non seulement ne pas être mort, de ne pas dormir, comme le terme est souvent employé comme euphémisme, mais ceux qui sont encore vivants et qui sont dans un état d'attente et de sainteté causé par cette attente immédiate du retour, de l'arrivée de Jésus pour enlever son Église. Soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Nous allons être avec lui. Nous allons, en un instant, nous retrouver avec Jésus-Christ. C'est pour ça que nous pouvons nous consoler les uns les autres. C'est pour ça que Paul ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Encore une fois, Paul donne une exhortation pour qu'elle soit bien reçue. Il encourage, au lieu de dire « Oh là là, ça ne marche pas, ça, il n'y a pas assez d'exhortation. » Il dit « Vous le faites déjà, vous vous encouragez les uns les autres, mais exhortez-vous mutuellement. » Comme il disait « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Ça, c'est au passage une des clés de la vie chrétienne. Le monde dit « consolez-moi ». Dieu dit « consolez l'autre ». le monde dit « encouragez-moi ». J'ai besoin d'être fortifié, d'être bâti, d'être édifié pour mieux arriver dans la vie, pour avoir plus de choses, pour réussir mes examens. La Bible dit « édifie l'autre ». Ça, c'est une des clés de la vie chrétienne. Si vous venez tous les dimanches en vous demandant « qui vais-je pouvoir encourager ?» Même si ça va mal dans votre vie, même s'il fait trop chaud, même si vous en avez marre de cette chaleur qui vous empêche de faire le travail que vous souhaiteriez faire, ne pensez pas à vous-même. Et c'est intéressant de dire ces paroles devant mes proches, devant ma femme, devant mes fils. Ne pensez pas à vous-même d'abord. Une des grandes exhortations que nous avons reçues à la conférence en Autriche, les messages, merci Craig, sont maintenant disponibles en ligne sur le site de Calvary Chapel. C'est les autres. Au lieu de penser à moi, moi, moi. Et c'est en s'oubliant soi-même qu'on se sent mieux. Alors, il ne faut pas le dire, bien sûr, il ne faut pas dire, je vais m'occuper des autres pour me sentir mieux moi-même, parce que j'en ai marre de me sentir mal et je veux être béni. Mais c'est un des bénéfices, c'est un des secrets de la vie aussi. Si on pense à soi, on est toujours très malheureux, parce qu'on va se comparer aux autres. On va voir ce que j'ai, ce que je n'ai pas par rapport aux autres. Que ce soit la beauté, l'intelligence, les biens matériels, la popularité, et que sais-je encore, l'amour de quelqu'un d'autre ou des gens autour de moi. Mais si on cherche à faire partie de la solution et d'aller vers l'autre, de parler avec l'autre, de prier avec l'autre, de l'encourager. D'abord, on va moins penser à soi. Et si cette attitude est prévalente dans l'Église, quelqu'un va venir vers vous et vous demander « Comment ça va ? Est-ce qu'on peut prier ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Jésus lui-même a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être adoré, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Ma prière cette année, c'est que nous soyons les uns au service les uns des autres. Ça, c'est l'enseignement à l'Église tout entière, mais à chacun, à chacune individuellement, le Seigneur dit « Sers l'autre. » Ne pas « Sers-toi de l'autre » comme le monde le dit, mais sert l'autre. Et c'est une des façons d'être éveillé, de ne pas faire les somnambules, comme tant de gens le font dans le monde. Amen.